Bon, ma crainte, c'était qu'il y ait trop de monde. Parce que quand il y a trop de monde, la prise de parole ne se fait pas forcément facilement, et le côté dialogue qui est censé avoir lieu dans ces ateliers. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, encore peut-être une ou deux personnes, je crois, qui vont venir, mais bon, ça reste acceptable pour qu'il puisse y avoir des discussions. J'ai entendu tour de table. Je vais faire le tour de table après. Je préfère commencer sur quelques sujets pour enchaîner le tour de table après. Parce que ça sera l'occasion également lors du tour de table de faire un premier retour sur les premiers éléments que je vous propose pour commencer la réunion. Donc, moi je suis Christian Forêt, donc je suis chez Ars Industrialis et je vais animer ce groupe de travail sur les technologies relationnelles. Vous savez qu'il y a deux autres groupes de travail. Peut-être certains d'entre vous y sont par ailleurs inscrits. Un qui est relatif aux techniques de soi. Vous remarquerez que je marque toujours un petit peu l'arrêt parce que je suis beaucoup dans technique et technologie et essayer d'articuler les deux. Donc j'hésite toujours quand je commence à aborder technique. Donc là, bonjour Alain. Donc atelier technique de soi. Donc il y a déjà eu quelques réunions. Et vous avez peut-être reçu une invitation, si vous êtes sur la mailing list, pour le troisième, en fait, atelier ou groupe de travail qui est relatif à l'économie, la finance, enfin, l'économie de la contribution d'une manière plus générale. Je l'avais dit, pour ceux qui étaient là, à l'atelier technique de soi auquel j'avais participé le dernier, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on ne peut pas faire partie des autres, je dirais même au contraire, c'est les multiples inscriptions et participations sont les bienvenues. Je vous rappelle que je vais enregistrer la séance, j'espère que ça va bien marcher, donc tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Mais l'objectif c'est également de le partager avec ceux qui n'ont pas pu se rendre à cette réunion, que Bernard puisse lui-même l'écouter et nous faire son retour dans la communication qu'il souhaitait faire cet après-midi, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne va pas être possible parce que la connexion internet de son côté apparemment était un petit peu défaillante. Donc les conditions et la qualité n'étaient pas bonnes et ça n'aurait pas été, je crois, intéressant. Donc moi ce que je vous propose, comme je vous ai envoyé un petit agenda, c'est de commencer par les objectifs, hein, bien commencer par les objectifs, pourquoi, qu'on se mette d'accord et qu'on ait une première discussion là-dessus. Pour ensuite évoquer la distinction que j'ai faite sur technique, technologie, pourquoi, hein, et pourquoi moi, dans la manière dont j'aborde les technologies relationnelles, chacun a un parcours particulier dans la manière dont on l'aborde, et ça va être la richesse, je crois, de la discussion, mais moi j'y suis tous les jours, parce que mon métier c'est l'informatique. Donc il faut que j'en sorte pour essayer d'y revenir d'une certaine manière et dans de bonnes conditions. Donc le pas de côté que je fais, en recul pour essayer de re-rentrer dans le sujet, je l'ai fait pour moi et j'aimerais voir comment vous le faites en fonction de vos activités, de vos horizons. Ça serait une discussion. Et puis Alexandre a bien voulu participer à cette réunion. Alexandre qui est doctorant, enfin tu te représenteras tout à l'heure rapidement, qui travaille par ailleurs aussi à l'IRI, l'Institut de Recherche et Innovation avec Bernard, qui a fait un travail formidable dans l'organisation de cet événement PhiloWeb, dont certains d'entre vous, je crois, enfin j'ai eu quelques retours sur la liste de discussions, ont pu y participer. Donc je lui ai demandé, il a gentiment accepté, de nous faire son retour un petit peu, de qu'est-ce que c'est cet événement, qu'est-ce que ça a apporté, et ça sera également, j'espère, l'occasion d'une discussion avec ceux qui étaient présents ou pas lors de cet événement. Et je pense que ça sera repris par la suite avec l'intervention de Bernard Stiller qui voulait reparler philosophie web sur ces sujets-là. Je l'avais dit, mais au niveau de l'association, nous tenons à ce que les gens qui participent soient des adhérents. Hein. Au début, on a envoyé une invitation à la liste des sympathisants qui est plus importante que la liste des adhérents. Bernard il tient beaucoup, enfin, au niveau du conseil d'administration il faut que bon, les gens qui participent à l'atelier là j'ai demandé expressément à des gens de venir à Alexandre, à Alain, je ne sais plus s'ils sont adhérents ou pas, ou sympathisants. Il y a une autre personne aussi qui pourrait venir, qui est un historique mais peut-être va passer, qui était intervenu à PhiloWeb. Mais pour ceux qui vont travailler, ils font partie de ce groupe de travail, on demande une adhésion. S'il y a un problème financier, je peux payer des adhésions. Hein, c'est pas, mais il faut que l'acte soit fait d'être adhérent. Quoi.
Christian, je ferai adhérer plutôt mon association. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'adhésion.
Non, pas de problème.
De ce point de vue, faudrait un peu améliorer les relances ici, parce que j'ai cotisé il y a 2-3 ans, j'ai jamais eu de relance, et c'est vraiment pas faire sur le site pour gérer les renouvellements.
Non, c'est chacun de gère, en fait c'est tous les ans, il faut faire une en janvier, en février, à la date à laquelle vous l'avez fait. Mais on n'est pas... On n'est pas encore dans une économie de la relance, mais oui, on va essayer de faire des progrès. Quoi. Mais c'est vrai que, bon, y compris ceux qui sont de bonne volonté, qui demandent qu'à se réadhérer, on ne fait pas le geste de rappel, ça pourrait être efficace. Donc ça, c'est une première remarque. Donc je vais commencer par le rappel des motivations de l'atelier. Donc c'est d'abord bénéficier d'un apport plus large des adhérents. On a des discussions internes au conseil d'administration, on est visible sur les séances à la colline. Il s'agit toujours pour nous d'essayer du cercle, de sortir du cercle dans lequel on est, et les gens qui adhèrent, qui puissent vraiment nous aider, nous faire avancer sur ces sujets-là. En tout cas, qu'on tende la perche. Après, peut-être que les ateliers vont s'arrêter. Hein. Un atelier qui ne marche pas, bon, on arrête. Hein. C'est pas... On aimerait que ça fonctionne quand même. J'avais donné un triple objectif. Je vais en rajouter un quatrième, là. Je vais évoquer ces objectifs et je vais faire une petite présentation de ces objectifs et j'aimerais qu'on puisse réagir après, si vous le voulez bien, sur chacun de ces objectifs, plutôt que de les énoncer de manière longue, essayer de vous faire revenir sur le premier, on ne se souvient pas très bien. Donc s'arrêter sur chacun pour essayer de voir si vous participez à ce que je dis, si vous êtes en phase. Donc le premier élément de l'atelier, bon, c'est d'abord avoir une approche conceptuelle et critique de ce sujet qui nous préoccupe, les technologies relationnelles. Parce que ça, c'est... La marque de fabrice d'Ars Industrialis, c'est fabriquer des concepts. On se souvient du séminaire de Bernard 2007-2008, qui reprend l'expression de Deleuze, les concepts c'est des armes, donc ça nous permet de modifier, et d'agir sur la réalité. Donc il faut continuer à travailler sur cette approche conceptuelle. Sur ce premier point, d'abord je vais les énoncer tous les quatre. Le deuxième point, c'est produire une typologie des technologies relationnelles, qui nous permet également d'avoir un suivi de l'innovation. C'est très difficile sur un sujet comme les technologies relationnelles, où il y a des innovations, des nouveautés tous les jours, de suivre, de comprendre ce qui se passe, si on n'a pas une grille d'analyse, de lecture, qui nous permet de mieux digérer les événements et de ne pas se laisser happer. Un des dangers de ce sujet-là, c'est de petit à petit à faire du journalisme. On relate ce qui sort tous les jours, on essaie de l'utiliser, de se faire un avis, mais ça va tellement vite qu'on n'est plus capable de suivre. On n'a plus d'esprit critique et on est complètement absorbé. Donc il est intéressant, je pense, d'avoir cette typologie des technologies relationnelles pour ne pas se laisser absorber par ce champ d'innovation permanente. Le troisième point, c'est, je le dis de manière un petit peu cavalière et rapide, mais c'est produire des recommandations et faire des préconisations. Pour que des gens, des institutions, des organisations, etc., qui veulent bénéficier de nos concepts, de nos travaux, de nos typologies, puissent retrouver avec des documents qui leur permettent, eux, de prendre en main, d'essayer de prendre des initiatives sur la base du travail, des travaux qu'on aura fait. Un petit peu à l'image, j'y reviendrai tout à l'heure, de ces institutions de normalisation sur le web, que sont l'IETF, le W3C, qui produisent des documentations de la standardisation sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de faire en sorte que les investissements que l'on fait, notamment sur les sujets des technologies, ben on est dans les standards, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout falloir refaire 2 mois après, parce qu'on a tout redécidé, on a tout réinventé le monde dans notre coin. On va y revenir plus en détail. Et le quatrième point que j'ai rajouté, parce qu'il n'était pas vraiment explicite dans le troisième, c'est faire des expérimentations. Alors, sur le premier, donc sur les discours... Je pense qu'il faut avoir des discours, des rencontres, des échanges, mais y compris avec d'autres personnalités que les membres du groupe de travail. Donc je pense qu'il faut, sortir de ce groupe de travail pour aller rencontrer, inviter, interviewer d'autres personnalités. Parce que les personnalités, quand vous leur dites « venez sur ce sujet », ils disent tout ça, c'est Arsenius Realis, c'est Stigler, c'est machin, c'est pas ma chapelle. Il y a toujours des logiques de chapelle. Hein. Mais il faut aller les voir, ces gens-là. C'est-à-dire que, ce que je dis par là, c'est que ce groupe, le groupe d'Alain, mais je pense que c'est le cas des trois groupes, c'est un atelier qui n'est pas renfermé sur lui-même. Hein. C'est pas une secte. Pour ceux qui sont venus ici en pensant être dans une secte, c'est pas une secte. Donc c'est pas quelque chose qui est replié sur lui-même. Même s'il y a un côté enseignement et travail ésotérique et pas tellement exotérique. Hein. Il y a cette différence, vous savez, dans la philosophie historiquement, entre l'enseignement ésotérique, c'est-à-dire celui qui est dispensé dans l'école, hein, uniquement aux initiés, à ceux qui comprennent la parole, et puis il y a un autre enseignement qui est l'enseignement exotérique qui est destiné au public d'une manière plus générale. Donc on essaye de rejouer cette distinction-là, mais sans que ça soit fermé. Hein. C'est un cercle, c'est un atelier, mais il faut le penser un peu comme une membrane. Hein. La membrane définit un intérieur et un extérieur, mais c'est la membrane qui permet de mettre en place des processus de passage de l'un à l'autre, de l'intérieur à l'extérieur, et de l'extérieur, et réciproquement de l'extérieur à l'intérieur. Donc le groupe, je crois, doit pouvoir s'ouvrir et rayonner, mais depuis un travail et une certaine maturité sur la question. Ça veut dire quand même qu'il faut travailler. Il ne s'agit pas de faire du journalisme organisé pour aller interviewer les grands penseurs des technologies de l'innovation relationnelle. Il faut aller, je pense, les voir. Donc c'est pas vraiment du journalisme quand je dis qu'il faut identifier des personnes qui ont des discours qui sont intéressants avec lesquels on veut se confronter, avoir un regard critique. Sur cette question des technologies relationnelles, c'est peut-être pas le cas sur tous les autres, sur tous les deux autres ateliers, mais je crois que sur le champ des technologies relationnelles, c'est en grande partie un désert critique. C'est une des difficultés de l'atelier. Désert critique, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un espace, ces technologies relationnelles, qui est majoritairement occupé soit par les industriels du web, soit par les journalistes, et quelques gourous, généralement américains, mais dès qu'il est question de technologies relationnelles, c'est un débat qui... Il y a très peu de pensées critiques. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait à ce propos-là d'un désert, un désert intellectuel sur ces questions-là. Ou en tout cas, les gens qui travaillent, il n'y a pas de visibilité d'un champ de recherche et d'enjeu. Chacun arrive avec ses petites... Moi, je trouve que l'approche est très journalistique.
Où est-ce que tu mettrais des gens comme Hilal Dwehi, Gert Loving?
Ça fait partie des sujets qui font que ces gens-là, je les connais de nom, mais je me suis jamais moi-même, tu vois, c'est aussi le, j'ai jamais fait l'effort d'y passer du temps parce qu'ils font pas partie de mes références. Donc je pense que c'est un des intérêts quand je disais aller interviewer ou aller discuter, c'est de se mettre d'accord sur quelles sont les personnes qui sont importantes avec lesquelles, bon, ben je sais qu'Alain me dit, faut lire lui. Lui, il est intéressant ceci, cela. Bon, ça me permet aussi de sortir de mon propre désert, moi. Hein. Chacun a ses références et. Donc le désert, c'est celui que je constate, mais c'est celui que je projette, hein, celui de mes références, de nos références. Donc il est intéressant, je pense, de partager nos références, nos lectures. Moi, j'avais proposé, notamment lors du... On fait des séances au conseil d'administration, qu'on ait notre moment apostrophe. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment, hein. Il est intéressant, au-delà de ce que je pense, bon, c'est-à-dire quelles sont les références en ce moment qui me font réfléchir sur les sujets. Ça c'est, je pense, c'est un lieu de partage et d'échange, au-delà de la... Moi, je n'attends pas que chacun d'entre nous ait un avis, une thèse, parce que... Quand j'ai invité les gens à cet atelier, c'était les experts, mais aussi les néophytes, hein, les gens qui arrivent avec des questions, mais aucune réponse. Mais je pense que dans la manière de formuler les questions, quand on s'intéresse à un sujet, mais qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, c'est aussi intéressant que celui qui a une vraie expertise, qui a commencé à défricher le terrain, et qui est capable de donner des références. Ça, c'est très important. Donc, à ta question, hein, connais pas. Connais de nom, j'ai dû lire deux, trois trucs, mais je ne les imprime pas. Moi, c'est des gens que je n'imprime pas dans mon champ critique et dans mon travail. Ensuite, il est important, je crois, que les discussions et les débats qui auront lieu, aussi bien internes qu'externes, soient enregistrés, retranscrits. Quand je parlais des entretiens, si on fait des entretiens filmés avec certaines personnalités, je dis personnalités parce qu'a priori, ils ont une certaine aura, une crédibilité, hein, sur les sujets qui nous intéressent. Je suggère, on avait discuté au sein du conseil d'administration, qu'on puisse utiliser notamment Ligne de Temps, le logiciel de l'IRI, pour pouvoir indexer ces entretiens, de manière à ce qu'on puisse ensuite naviguer par les thématiques, les différents avis entre les différentes personnes, qui peuvent être en interne ou en externe, avec lesquelles on aura essayé de dialoguer. Donc on retranscrit ces enregistrements, on propose des outils critiques, pour naviguer dans ce corpus. Quelqu'un m'a fait la remarque sur la mailing list. Alors je fais une aparté là-dessus, puisque je reçois je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites sur l'atelier des technologies relationnelles, des mails à moi. Enfin, non, il faut l'envoyer à la liste, quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas rebalancé sur la liste parce que j'aurais le sentiment de trahir celui qui peut-être m'a envoyé le mail à moi uniquement, mais sans mettre en copie la liste. Je sais pas si c'était intentionnel ou pas. Donc je vous le dis, quand vous avez des messages, ben ça, adressez-le à la liste des discussions pour que ce soit vraiment une discussion collective. Donc il m'a été suggéré de faire une base de connaissances. Je suis un peu moi base de connaissances. Dans mon passé professionnel, j'avais travaillé sur ces sujets-là, knowledge management, base de connaissances. Moi, je préfère le terme qui est beaucoup plus simple, d'archives. Si on arrive à avoir des archives indexées et travailler avec, voilà, ça me permet d'éviter de partir sur des sujets qui sont parfois un peu fumeux. Mais cette archive, elle est vraiment exploitable parce qu'elle a été indexée, etc. Et on propose des outils. Donc constituer une archive et encore plus. Donc sur ce premier point, l'approche conceptuelle critique, le débat interne, externe, aller voir des personnalités, est-ce que la manière dont je présente, ça vous paraît clair ou pas?
Oui.
Je vais faire un temps comme ça, après avoir parlé un petit peu des différents points. Bon, si ça dit rien, j'enchaîne, mais après vous pourrez revenir sur le début. Donc le deuxième point, c'est vrai que j'ai chaud, sur la question des typologies et des technologies relationnelles. Typologie des technologies relationnelles. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui, mais moi je suggère donc que nous nous projetions dans la perspective d'un livrable. Quand je dis livrable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis « je travaille, là j'étais au groupe d'Ars Industrialis, qu'est-ce que vous faites ?» Bon, c'est bien, on discute, mais qu'est-ce qu'on produit? Ça va rejoindre la question des recommandations. Je pense qu'il faut avoir en tête cette idée, mais qu'est-ce qu'on produit? Ça donne quand même un objectif en termes de... Ça donne pas une idée de la qualité de ce qui va sortir, mais au moins ça donne une visibilité de qu'est-ce qui va produire à l'issue de ces discussions. Donc moi j'ai pensé, je vous soumets l'idée, qu'en termes de livrable, ça puisse prendre la forme condensée d'une ou deux au pluriel cartographie. Pourquoi je dis cartographie? Parce que j'indique déjà la dimension graphique de ça. D'abord parce que ça pourrait être un élément de communication et de visibilité importante. Pour dire une cartographie, quelque chose qui visuellement attire l'attention, ça permet d'accrocher parfois beaucoup plus que de longs textes. En même temps, on connaît tous les travers de ces petits schémas, de ces petites cartographies, et je suis le premier concerné par ça, évoluant professionnellement dans un milieu de consultant. Les schémas qui parfois empêchent de penser, il ne s'agit pas de produire ça. Mais enfin, il ne faut pas non plus le dénigrer, parce que c'est une possibilité... qui donne des potentialités qui sont intéressantes. Donc, comprenez-moi bien, c'est ce que je disais à l'instant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire quelques graphiques ou schémas sur cette question de la typologie. D'abord, je pense que l'exercice est difficile, donc ça permet plutôt que de dénigrer les schémas. Je ne sais pas quel est votre parcours, à la fois scolaire, formation, et puis derrière professionnel, mais moi j'ai été dans des milieux, peut-être vous aussi, très différents, ne serait-ce que par ma formation, puisque moi je suis bâtard, j'ai fait la philo, une école d'ingénieur et puis du management. Commencez par faire un dessin en philo, mais vous êtes mort. On vous dit, va acheter la classe de philosophie, ou si vous donnez la classe de philosophie, vous savez, ce petit ouvrage, un ouvrage qui est sorti où on résumait les thèses philosophiques avec des schémas. Le premier qui sortait cette référence, il était grillé. Enfin, en termes de crédibilité, c'est juste après les que sais-je, si vous citez un que sais-je et puis ce type d'ouvrage, vous êtes mort, quoi. À l'inverse, si vous avez dans le management, si vous ne faites pas un schéma, on ne vous écoute pas. Dans l'ingénierie, dans les écoles d'ingénieurs, il y a aussi un usage des schémas et des dessins qui est intéressant. Il ne faut pas diaboliser cette question du schéma et du dessin. Il faut vraiment essayer de produire quelque chose, et une réflexivité aussi sur la manière vis-à-vis de nos sujets, comment on peut produire des schémas, qu'est-ce que ça veut dire, des typologies qui peuvent s'incarner dans des schémas.
Notamment des vidéos.
Et des vidéos, enfin, c'est tous les supports, mais...
Il y a un livre allemand publié chez Livre de Poche, je crois, qui est une histoire de la philosophie, avec une page, c'est un texte, et un schéma pour illustrer justement toutes les pensées philosophiques, depuis Platon jusqu'à nos jours. C'est très très bien foutu, peut-être que le fait que ce soit allemand, justement, c'est peut-être pas les mêmes
T'en donnes une
crédibilité. Oui, non, mais c'est peut-être pas les mêmes références culturelles, mais les mêmes manières d'aborder aussi le visuel. Et...
Tu as la référence en fait ?
Je l'ai pas, mais je peux l'envoyer.
Non, pas par exemple. Donc voilà, il y a cette histoire de grille de lecture typologie qui sera argumentée, mais aussi voir comment on peut produire des schémas. Bon, ce travail de typologie des technologies relationnelles est important parce qu'il donne aussi un cadre pour s'orienter, hein, parce que c'est un lieu de la désorientation important, y compris pour ceux qui croient être au fait de ce qui se passe sur tous ces sujets des nouvelles technologies et des technologies relationnelles. Bon, ça vous est peut-être arrivé si vous êtes dans ce milieu-là, vous laissez passer 3 mois parce que tout simplement vous travaillez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est sorti, c'est le nouveau truc, et si tu l'as pas fait, t'es has-been, quoi. Donc ça permet aussi de prendre du recul. Donc ce travail-là, je pense, il est pas sans rappeler une méthodologie qui est d'ailleurs utilisée historiquement par Bernard Stiegler, qui relève d'une démarche de prospective. C'est-à-dire voir ce qui arrive et essayer de ne pas se le prendre dans les dents systématiquement sans avoir la capacité critique de prendre du recul. Cette démarche prospective, elle s'appuie historiquement d'abord sur la vision de Bertrand Gilles, hein, dans la philosophie des sciences et des techniques. D'abord, elle dit, je pense que c'est important pour nos travaux, qu'il faut raisonner en termes de tendance. Par exemple, en termes de tendance, moi je pense qu'en ce moment, sur les aspects plus informatiques, excusez-moi de faire parfois des apartés sur ces aspects-là que je connais un peu plus, mais bon, chacun aura des champs et des disciplines qui seront différents. Je pense qu'on est en train de passer après l'informatique industrielle et l'informatique de gestion à l'informatique relationnelle, hein, qui s'inscrit vraiment dans cette tendance des technologies relationnelles, qui ne sont pas les technologies de gestion informatique telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui sont utilisées dans les entreprises. Je pense que pour moi, c'est un des motifs qui fait que les entreprises ont du mal à appréhender les technologies relationnelles, parce qu'elles sont toujours dans une perspective technologie de gestion, et donc informatique de gestion. Donc, tous ces trucs de réseaux sociaux, ça leur... Ils ont l'impression d'être envahis. Parce qu'à présent, il ne s'agit plus de gérer de la même manière le numérique, comme on le gérait dans les systèmes d'information et avec ces systèmes de technologies relationnelles. Donc il faut raisonner, je pense, en termes de tendance et aussi de contre-tendance. Il y a des affrontements. Quand on raisonne en termes de tendance, ben on dit, et je pense que c'est important à souligner, parce que ça fera partie de la manière dont on peut décrypter les innovations, dans le cadre de ces tendances, il y a des faits. Par exemple, un fait, c'est, je sais pas, un nouveau réseau social, où on a parlé de... C'est un fait qui fait une actualité. Voilà, c'est un fait. Le tout, c'est de savoir comment ce fait s'articule avec la tendance. Il se trouve que la plupart du temps, ça, c'est ce qu'a souligné les travaux qu'a fait historiquement Bernard Stiegler, notamment à l'INA, dans la manière de mettre en place des démarches de prospective. Il se trouve que la plupart du temps, les faits disent le contraire des tendances que pourtant ils affirment. Comme un acte refoulé, parfois. Hein. Si on se fie aux faits, ils vous disent le contraire de la tendance dans laquelle eux-mêmes ils s'inscrivent. Et quand je dis parfois, c'est pas même souvent. Donc quelqu'un qui vous dirait « vous avez tort parce que regardez les faits vous contredisent », il se trouve que les faits, la plupart du temps, disent le contraire que la tendance dans laquelle ils s'inscrivent. Donc il faut avoir des mécanismes d'interprétation qui sont différents de ce qu'on fait, par exemple, quand on fait de la veille. Une démarche de veille, ça c'est une catastrophe dans les entreprises, je pense, les démarches de veille, généralement ça atterrit au service documentation qui compulse des actualités nouvelles qui sont des faits. Et généralement, dans un état d'esprit qui est le suivant, je détecte des signaux faibles, ces faits sont des signaux faibles, et je suis capable, parce que je les ai détectés très tôt, d'anticiper l'avenir. Et généralement, ça repose sur une loi qui est une loi d'extrapolation. Hein. On prend des faits et on l'extrapole. C'est totalement en opposition avec la démarche que j'ai évoquée il y a un instant, de raisonner en termes de tendance, de contre-tendance, et d'avoir conscience que les faits techniques, technologiques, tels qu'ils nous arrivent, parfois disent le contraire de ce qui nous apparaît de prime abord. Donc ce qui veut dire que rien qu'avec cette démarche-là, je pense qu'on peut être dans une position critique qui est plus éclairée que le champ ambiant sur tout ce qui est technologie, nouvelle technologie et technologie relationnelle. Pardon ? Alors là, il faut reprendre. Il faut reprendre.
Je mettais d'ailleurs un fait, parce qu'un fait, c'est pas. Oui. Quand vous dites fait, tendance, je comprends bien. Je comprends bien ce que vous dites, mais comment ça s'incarne dans un exemple et comment... Qu'est-ce que c'est pour vous un fait?
Un fait. Bon, il faudrait reprendre Bertrand Gilles parce qu'il donne, lui, beaucoup d'exemples, hein, notamment dans l'évolution des techniques. Hein. Alors, il faudrait que je trouve un exemple.
L'apparition du transistor.
Bah, vas-y, donne l'apparition du transistor.
Parce qu'on travaille un peu là-dessus à l'IRI. Ça peut être, par exemple, l'apparition du transistor et une tendance à la miniaturisation, par exemple. Après, il y aura des contre-tendances, des choses comme ça. C'est évidemment très, très complexe et on essaie de travailler sur des vocabulaires permettant justement d'exprimer ces différentes relations. Donc, parce que vous pouvez avoir aussi des faits, mais qui finalement n'appartiennent pas à une tendance parce qu'ils arrivent trop tôt, d'une certaine façon, et puis ils disparaissent ou ils ne débouchent sur rien. Et donc il y a des faits qui ont un sens à un moment donné, et parce qu'il y a un fait nouveau qui apparaît plus tard, on est obligé de redonner un sens différent aux faits antérieurs. Donc c'est toutes ces relations qu'il faut penser. Mais évidemment, c'est la définition du fait est presque aussi difficile, d'une certaine façon, que la définition de la tendance. Parce que la tendance, on se dit, c'est ça qui va être difficile de faire émerger à partir de tous ces faits. Mais la sélection même des faits, évidemment, elle repose sur une grille initiale. Donc c'est la barque de Thésée, hein, c'est le bateau qu'on reconstruit en mer.
Notre.
La sortie des nouveaux produits, les iPads, les iPods.
Oui, tout ça, ce sont des faits. Ouais. Sont des faits. Même, je reprends
le Minitel, à une certaine époque, etc. Mm. L'évolution des technologies. Demain, les nanotechnologies. Mm.
Il y a des faits comme, par exemple, l'ouvrier qui massacre son outil de production, comme on l'a vu au début de l'ère industrielle moderne. Et ça, c'est un fait. Donc, si j'extrapole, je dis, les gens ne voudront jamais des machines. Mais il se trouve que ce fait-là, c'est une réaction par rapport à une tendance qui n'a fait que s'amplifier. Donc ça, c'est, par exemple, c'est une articulation entre un fait et une tendance qui est en contradiction avec ce qu'on voit immédiatement dans le fait. Et on va dire, jamais personne n'acceptera de travailler avec ces machines. Alors, on a bien vu que c'était vraiment une tendance lourde, une tendance de fond. Moi, j'avais travaillé à un moment donné avec l'industrie du culturel, édition, musique, etc., qui voulait, c'est un exemple, qui voulait prédire les ventes. Notamment, un de mes clients, c'était Universal Music, il y a une dizaine d'années. Et j'aimerais bien, moi, quand je produis des disques, j'aimerais bien savoir combien je vais en vendre. Ça m'intéresserait, ça me permettrait d'affiner mon outil de production. Donc là, le prochain Johnny Hallyday, combien il va se vendre? Tel ou tel album, combien il va se vendre? Et donc ces gens-là étaient très intéressés par l'industrie, on va dire, traditionnelle, hein, qui travaille avec des extrapolations, qui est capable de dire, si je fais des petits pois, grosso modo, je sais combien je vais en vendre l'année prochaine, ou si, y compris dans la mode. Hein. Moi, j'ai été surpris, parce que la mode, c'est une industrie, mais c'est pas vraiment une industrie culturelle au sens édition, livre, musique, etc. Mais ça reste quand même de la mode, c'est très peu prévisible. Et quand on rentre dans ce secteur-là, on s'aperçoit que c'est tout à fait prévisible. Ce qu'on va acheter dans 2 ans, c'est déjà en production. Donc la chaîne, on n'imagine pas à quel point c'est... D'ailleurs, c'est déprimant quand on voit l'industrie de la mode et la manière dont ils fonctionnent. Ils ont des capacités de prévision qui sont très aiguisées, hein, qui utilisent l'extrapolation, mais qui prennent en compte des phénomènes externes. Et qui sont capables de repousser au dernier moment l'utilisation de tel ou tel coloris ou telle forme dans leur outil de production, et de savoir où il faut appuyer en termes d'un point de vue marketing et publicitaire au dernier moment pour faire en sorte que l'opinion achète finalement ce que vous aviez prévu il y a 2 ans. Ça, c'est remarquable comme industrie, la manière dont elle s'est... Et donc l'industrie culturelle voulait essayer de bénéficier de ces techniques, qui étaient beaucoup des techniques mathématiques, techniques d'extrapolation, mais bon... Là, c'est pas possible, ils s'en sont rendus compte. Enfin, moi, c'était mes conclusions à l'époque, c'est pas possible. Même si on arrive à le faire dans la mode, prévoir le prochain Johnny Hallyday, Michel Sardou, Houellebecq dans les ouvrages ou autres, c'est très très difficile. Ce qui fait que ces gens-là, par exemple, ne raisonnent pas du tout en termes de tendance, de contre-tendance, de fait. Ils ont une lecture de l'actualité qui est on en a vendu tant, on va en revendre tant de la prochaine fois du prochain Johnny Hallyday, modulo, quelque chose, mais. C'est pas vraiment très, très poussé comme raisonnement. Donc voilà, ça c'était sur la partie donc typologie des technologies relationnelles et suivi de l'innovation. y a d'autres remarques là-dessus, non?
Est-ce qu'on va étudier uniquement ce qui concerne le web, Internet, ou est-ce qu'on va peut-être remonter aussi dans le temps, parce que les technologies relationnelles, ça ne se limite pas seulement à l'internet.
Ouais, je pense que c'est... Alors, quand on est sur des problématiques de prospective et d'innovation, on est quand même sur quelque chose qui est en train de se passer et qui va arriver. Mais je pense qu'il faut avoir... C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas ce que j'ai... Savoir d'où on vient. Hein. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Et moi, ce que je vais dire tout à l'heure sur les techniques relationnelles, les technologies relationnelles, c'est la manière que j'ai, moi, de sortir du sujet pour pouvoir y rentrer de manière un petit peu plus saine. Ça rejoint la remarque que vous faisiez à l'instant. Je pense que ces allers-retours, cette historicité, elle est permanente. Et quand j'évoquais les aspects conceptuels au début, qui est la marque de fabrique d'Ars Industrialis, c'est précisément pas se laisser happer par l'immédiateté des concepts, parce que c'est pas les nôtres, c'est ceux du marketing ou d'autres industriels. Et je pense qu'il est nécessaire, effectivement, de faire un pas de côté, un pas en arrière, et de voir la généalogie de ce qu'on regarde aujourd'hui et qu'on appelle les technologies relationnelles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cherché sur Internet, moi j'avais fait l'exercice il y a quelques temps, technologies relationnelles, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas encore très utilisé. Ça a été utilisé par Jérémy Rifkin, qui lui parlait des Air Relational Technologies, mais plus en employant le terme de Air Technologies. Mais après, j'ai pas vu vraiment de référence. Je ne sais pas si depuis 3-4 mois ça a changé, mais... Je dois refaire l'exercice, mais pour l'instant, l'expression n'est pas... Bon, je pense qu'elle est comprise. Quand vous dites à quelqu'un technologie relationnelle, il voit à peu près, vous dites, il a du mal à articuler, ça va être technologie de la communication ou nouvelle technologie, mais c'est pas que ça. Donc il y a vraiment un véritable effort de définir, de dire de quoi on parle. On a beaucoup parlé, nous, des technologies relationnelles en faisant allusion aux réseaux sociaux. C'est un aspect important, hein. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que c'était ça votre remarque pour essayer de...
Non, je voulais savoir si on allait étudier les techniques, comme par exemple les iPods, iPhone, tout ça, ou est-ce qu'on allait utiliser les façons qu'ont les gens de communiquer entre eux, en temps réel en fait, d'une façon plus globale, pas uniquement liée à l'outil, quoi. Ouais. L'outil, c'est important, ça, mais je voulais savoir si on ne peut pas aussi parler des relations entre les personnes d'une façon plus conceptuelle, peut-être.
Oui.
Est-ce que... Enfin, moi, je tiens plutôt cette idée que pour penser et avoir un discours critique, on va avoir besoin de remonter dans l'histoire. Ça nous aidera probablement à dégager des concepts sur ce que c'est qu'une technique, ce que c'est qu'une technologie. Et en quoi ça impacte sur les relations sociales. C'est ce que j'ai essayé de faire cet été à la Grasse, où j'ai parlé au banquet de la Grasse sur le sujet qui était imposé cette année. Donc la question grosse était est-ce qu'il y a une politique possible dans les médias numériques, hein. Qu'est-ce que ça change? Et j'ai aperçu que pour tenir mon discours, les meilleurs exemples, c'était de m'interroger sur le dispositif technique qui rendait possible la politique à Athènes. J'ai relié ça en fait à l'architecture du théâtre. Hein. Par ailleurs, pour parler un petit peu des réseaux sociaux qui intéressaient mon auditoire et mes mandataires, là, en me reportant au discours théâtral et au dispositif de la scène de théâtre, où je pense qu'on peut faire des analogies. Alors, ce sont des analogies, mais ça peut permettre de dégager des concepts, et un mot comme celui-ci devrait aider à passer au stade conceptuel, de l'adresse à la cantonade, qui fait que le sujet parlant sur un réseau social peut s'adresser un auditoire de taille inouïe aujourd'hui, en termes purement quantitatifs, mais avec des formes de masquage, l'interrogation que je continue à avoir, c'est est-ce que ça permet un discours proprement politique? Quel sens ça peut donner à politique? Non, mais je pense que la question que tu poses, qui m'intéresse dans cet atelier, c'est d'arriver à trouver au départ des exemples de faits techniques, au sens d'artefacts presque, qui surgissent. Hein. Alors en histoire, il va bien falloir qu'à une date, Kopf et Alexandre, on décide qu'on a un fait, mais c'est à mon avis une décision, comprenons, de considérer que l'apparition du transistor est un fait. Et puis par ailleurs, historiquement, nous suivons des flux, des process d'évolution, ce qu'on peut appeler des tendances. Mais à nouveau, c'est notre vue, un discours qui va se tenir par rapport à un passé. Et comment un artefact qui apparaît à une date donnée interagit avec ce qu'on va choisir d'historiciser comme tendance. Et aujourd'hui, c'est clairement la question que nous posent les industriels, hein, quand ils nous disent « trouvez-moi des signaux faibles, surveillez l'apparition d'artefacts qui viennent dans le paysage actuel et aidez-moi à prendre des décisions qui soient en principe motivées par l'identification, au-delà des signaux faibles, de tendances qui vont permettre de... faire des propositions ou des paris économiques.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que le moment est critique, parce que quand tu évoquais les industriels ou les gens qui te sollicitent, moi aujourd'hui, je lis ça depuis, c'est récent, depuis 3 mois. Les gens me demandent des plans d'action. Avant, on m'écoutait, on nous écoutait, on voulait partager les symptômes, les diagnostics. Et maintenant, comme c'est décisionnaire, ils me demandent des plans d'action. Alors, parfois, je suis un peu court, parce que plan d'action, quand on est en train de mettre en branle tout un appareil conceptuel sur ces technologies relationnelles, aujourd'hui, les commanditaires, les gens que je vois qui sont les gros industriels, me demandent des plans d'action. C'est OK, on y va, maintenant c'est passé. Mais comment on avance, hein? Parce que ce sont des gens-là qui passent leur temps à décider. Hein, donc ils veulent décider un plan d'action. Parfois même, la manière dont ils veulent avancer sur ces sujets-là est en contradiction avec la compréhension qu'ils auraient dû avoir des symptômes dont on a discuté avec eux. Notamment parce qu'ils veulent un plan d'action top-down, alors que ça met en... C'est très corrélé à un discours sur l'économie de la contribution qui n'est pas simplement top-down. Enfin bon, parfois c'est contradictoire dans le... Mais moi, je pense qu'on est vraiment dans un moment critique parce qu'on nous demande vraiment d'avoir des plans d'action. Et ça, c'est surprenant de la part des interlocuteurs industriels, entre guillemets, qui se confrontent de près ou de loin avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'informatique de gestion, mais c'est un marché qui repose sur des technologies relationnelles, qui met en place des économies de la contribution, et ça, au bout d'un moment, ça les dépasse. Ça les dépasse. Pour revenir, merci beaucoup pour ta remarque, j'ai bien aimé à la cantonade, je pense que je serai de la question de l'adresse, parce que à qui je m'adresse, à qui je parle, enfin, c'est la dilution des... une dilution qui est très similaire à ce que tu évoquais, l'origine du théâtre. À qui parle-t-il quand il s'exclame dans une arène ou dans un théâtre, enfin, je pense que c'est très important pour moi, puisque dans la manière également dont j'articule, on en avait eu une discussion, parce que je me souviens d'un atelier sur les techniques de soi où j'avais parlé des techniques du nous. Je pense que l'articulation que je vais évoquer tout à l'heure encore entre les techniques de soi et les techniques du nous, techniques de nous, pour moi, c'est les techniques relationnelles. Et les techniques du nous se jouent dans le théâtre grec. Mais pour rejoindre la remarque que vous aviez faite, ou quand vous avez précisé votre remarque tout à l'heure, entre les objets technologiques et les usages, je pense que les pratiques, je pense que c'est les deux. Et je vais y revenir tout à l'heure sur la distinction entre les... Même si tout le monde la connaît, essayer de la rappeler, entre les usages et les pratiques, en ce sens que les pratiques sont plus centrées sur l'homme, dans sa relation avec des objets techniques ou des technologies relationnelles. Alors qu'on, quand on a un discours sur les usages, on est plus attentif à l'objet qui permet ou qui produit tel ou tel usage. Voilà. Donc je pense que les deux, il ne s'agit pas d'analyser les caractéristiques techniques des nouveaux produits d'Apple. Hein. Et puis je pense qu'on aurait peut-être du mal, hein, par jour. Donc ça, c'était pour les... Il y a d'autres remarques sur les typologies, technologies rationnelles, le suivi de cette innovation, des grilles de lecture. Donc le troisième, c'était produire des recommandations et faire des préconisations. Bon, pour moi, cette question des recommandations et des préconisations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle s'impose, enfin, elle s'est imposée à moi quand je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que produit le groupe technologie relationnelle? C'est quoi l'output? Bon, il y a bien sûr la typologie qu'on a évoquée à l'instant. Là. Et je pensais que nous pourrions produire également des documents qui seraient vraiment des recommandations et des préconisations. L'exemple et le modèle qui s'imposent à moi, mais c'est peut-être parce que je suis influencé par mon environnement de travail, hein, vous n'aurez peut-être pas les mêmes références, c'est des grands groupes de normalisation que j'évoquais tout à l'heure, l'IETF, le W3C. Ces documents de standardisation sont un peu la nouvelle figure du manuel. Hein. Une théorie qui s'incarne dans un petit livre qui tient à la main, c'est pour ça qu'il s'appelle le manuel, c'est parce qu'il est facilement consultable et qui me permet, moi, de partir à l'action en m'appuyant sur des bases théoriques qui ont été formulées et qui sont également des préconisations. Mais ces références à ces groupes de normalisation, enfin, la référence à ces groupes de normalisation est aussi intéressante parce que ces gens-là ont des manières de travailler qui sont intéressantes. Puisqu'on est également un atelier, un groupe, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on essaye de trouver des outils pour travailler en dehors de ces réunions, de cette réunion où on se voit, mais également permettre à d'autres personnes qui ne peuvent pas se rendre ici, et qui vont nous écouter là, quand je vais publier l'enregistrement, de pouvoir participer, et pas comme des idiots, c'est-à-dire en ayant un temps de retard toujours sur les discussions en live, entre guillemets, mais pouvoir pleinement participer et collaborer à nos travaux. Or, les gens qui travaillent dans ces W3C, etc., sont des gens qui travaillent la plupart du temps à distance, qui travaillent avec des outils de mailing, de communication, l'IRC. J'ai commencé à regarder, toi tu penses que tu les connais peut-être aussi bien que moi, comment ces gens-là travaillent. Ils produisent des recommandations, comment ils s'organisent, leurs réunions virtuelles, ça se passe comment, qui prend des notes. Enfin, l'aspect est vraiment le plus concret d'organiser le travail quand les gens ne sont pas à côté. Et qui doivent produire des résultats qui sont relatifs aux technologies relationnelles, tout en utilisant eux-mêmes des technologies relationnelles pour les aider dans leur travail de production de livrables ou de recommandations.
Peut-être là-dessus, un retour d'expérience, parce que j'ai participé à une réunion du W3C par téléphone aux États-Unis, enfin moi j'étais en France, voilà. Donc on vous donne un identifiant pour se connecter en IRC, alors, ensuite un numéro de téléphone pour appeler, c'est très très mal fichu, hein, pour appeler un service qui va vous mettre en relation pour faire une audioconférence par téléphone avec d'autres personnes. Comme le numéro français ne marche pas, on doit appeler les États-Unis à ses frais, donc c'est toujours amusant. Et là, on n'entend pas grand-chose, mais en même temps, voilà, y a quelque chose d'assez joyeux qui se passe, où les gens essayent de parler, essayent de présenter leurs travaux. Quelqu'un sur le chat note tout ce qui se dit, en reprenant les interventions des uns et des autres. Donc Alexandre a dit ça, Fabien a dit ça, etc. Parfois ils se trompent, donc ça donne aussi des choses amusantes. Et puis à la fin, là c'était un groupe de travail sur le web social, donc aussi un peu quand même lié aux technologies relationnelles, qui est un groupe assez nouveau au sein du W3C, parce qu'avant ils ne s'intéressaient pas à ces questions-là. Et puis à la fin, donc il y a on récapitule un petit peu ce qui a été dit, et puis on attribue aux uns et aux autres ce qu'ils appellent des actions à entreprendre. Donc chacun, à la suite de cette discussion, a une action à entreprendre pour la semaine suivante ou la réunion suivante, donc écrire un rapport sur ceci ou cela, etc. Et ça, c'est publié, les actions sont publiées sur le web, la transcription est publiée à plusieurs adresses, etc., etc. Donc ça utilise le web, IRC, le téléphone, vraiment différents canaux de discussion, mais alors, de manière un peu artisanale par exemple, ça ne fonctionne pas bien, mais c'est une manière de faire qui est quand même très intéressante à expérimenter.
Et qui est d'autant plus intéressante parce que ça laisse des traces.
Tout à fait.
Et moi, il m'arrive régulièrement de remonter le temps dans les discussions du W3C sur... Bon, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Alexandre sur la web et philosophie. Des questions de choix de standardisation qui sont vraiment des choix d'architecture et également des choix philosophiques. Et on voit à un moment donné, on peut revenir dans le temps sur les arguments des uns et des autres, voir ce qu'on appelait pendant un certain temps, et ce que Bernard Stiegler évoquait, les orages sémantiques, C'est-à-dire sur un sujet, avoir la traçabilité de l'ensemble des polémiques, des oppositions, des arguments, et de voir ça dans le temps. Et du coup, de réintégrer une préconisation, mais en ayant tout un background de savoir pourquoi on en est arrivé là. C'est pas juste un moment, ça s'est imposé, c'est une préconisation, c'est un standard, utilisez-le. On est capable de revenir dans toutes les discussions parce qu'elles ont été tracées. Et ça, le résultat de ça, c'est le meilleur exemple que je trouve d'orage sémantique, hein, d'avoir tracé ces argumentations. Et ça, pouvoir tracer ces argumentations, bon, c'est ce qu'on commence à faire ici parce qu'on enregistre, parce qu'on fera peut-être des interviews avec Ligne de Temps, qu'on les indexera. Mais aussi, j'aimerais qu'un jour, mais je pense que ça demande même si ça ne marche pas, ça demande quand même une maturité de travailler avec des outils en ligne qui est forte. Hein, parce que peu de personnes arrivent à vraiment travailler en des réunions, en étant un chat, en écrivant vite. Tout le monde n'a pas cette capacité-là, et je ne demande pas à tout le monde. Demain, j'imagine pas qu'on puisse travailler comme ça d'entrée de jeu. Autre illustration de ça, ceux qui nous ont précédés, on va dire, dans l'économie de la contribution, je pense au logiciel libre, qu'on évoque souvent comme exemple d'une économie de la contribution, se sont organisés aussi avec ces outils-là. Y compris avec, quand vous êtes de tous les côtés du monde et que vous participez bénévolement, il y a de fortes chances que vous ne travaillez pas avec le voisin de palier, mais avec quelqu'un qui est un Japonais, un Américain. Donc, outre la barrière des langues, ces gens travaillent avec des outils qui ressemblent aux outils que tu as évoqués tout à l'heure, mais en plus produisent du code, utilisent des logiciels qui centralisent ce code. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des démarches de réseau social qui se construisent autour de la gestion du code. Nous travaillons tous sur un logiciel, mais le code que nous développons, il est dans un endroit, par exemple. Et autour du logiciel qui gère le code, c'est important de gérer le code, parce que si tout le monde rajoute des modifications en permanence, il y a des moments où il faut figer le logiciel, le faire évoluer, le valider. Donc c'est très complexe hein, pour faire grossir un code sans qu'il ne s'autodétruise et que ça aboutisse à un monstre qui ne marche pas. Donc c'est très très compliqué, parce que la modification que je fais peut avoir un effet de bord sur l'ensemble du programme. Enfin, bon, c'est vraiment un des sujets les plus complexes d'ingénierie et de collaboration. Et les outils qui commencent à tracer ça, hein, les répositoires de tracking, enfin tous ces Git, SVN, pour citer des noms que ne connaissent pas les développeurs, mais sont vraiment l'outil qui est pour moi le plus avancé en matière d'exemple de comment, parce que ça se fait pour le code, mais ça pourrait se faire aussi pour une discussion, pour un dialogue, pour un débat. Hein, on va débattre, et les actes de ce débat et de nos argumentations sont tracés dans un logiciel qui peut ressembler très fort à un logiciel qui sert à gérer l'intégrité, le développement d'un code, en sachant qui a fait une proposition à quel moment donné, est-ce qu'elle a été acceptée, refusée, etc. C'est ce qu'on appelle en informatique des forks, c'est-à-dire à un moment donné où les gens ne sont pas d'accord, eh ben moi je vais faire une dérivation. À partir du programme tel qu'il est, puisqu'on n'est pas d'accord sur son avenir, moi je vais prendre cette racine-là, on va prendre tous les deux la même, mais moi je vais partir dans une direction et trois dans une autre direction. Comme dans le répertoire de votre disque dur, vous pouvez peut-être parfois rajouter un nouveau répertoire pour créer quelque chose de nouveau, parce que vous voulez, c'est ce qui se passe dans les entreprises d'ailleurs, pour rejoindre la question du knowledge management que j'évoquais tout à l'heure, quand on demande des gens aux participer de capitaliser des documents, au bout d'un moment, moi je vois systématiquement chacun reproduit dans son répertoire, sa propre organisation, en faisant des copier-coller de ce qu'il trouve ailleurs. Chacun récupère ses informations, mais on n'est jamais rarement avec un système qui est vraiment distribué, utilisé par tous. Chacun reproduit sa petite logique dans son sous-répertoire. C'est ce que permettent de faire ces outils. C'est vraiment un outil qui organise les débats, trace les discussions. Je pense que ça, il faudra en faire un sujet, une thématique à part entière. Essayer d'inviter des développeurs pour que cette expérience-là, au-delà de l'expertise technique, puisqu'il ne s'agit pas d'être développeurs nous-mêmes, tous, l'expérience de travailler avec ces outils-là donne à ces gens-là une maturité, je crois qu'ils n'imaginent même pas l'importance de cette maturité-là.
De ce point de vue, c'est utile d'avoir des outils de représentation graphique, et d'autre part, d'avoir, si on a dans l'assistance quelqu'un qui est compétent en topologie mathématique, parce que les situations que tu décris, bon, elles sont bien théorisées, on n'a pas besoin de la technologie numérique entre convergence, divergence et historicisation de discussion. La grosse question, c'est quand on est dans des situations complexes, on va créer des graphes connexes, orientés ou non, quand est-ce que, à partir d'une forte divergence,
qui va donner lieu à la création d'un ensemble de faits, de données, de discussions. C'est les points de réintersection plus loin qu'on a beaucoup plus mal à gérer.
Mais bon, je pense que tu vois, il y a une vraie expérience qui ignore tous ceux qui ne sont pas dans le champ informatique. Et ça serait bien de la reverser, parce qu'on est toujours dans cette logique, on essaye de faire de la transdisciplinaire, de sortir de ses propres expériences, de son environnement à la fois disciplinaire ou d'un environnement de travail ou d'expérience, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne à côté. Ça, je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont on peut travailler avec des outils pour tracer ces polémiques, ces discussions. Parce que c'est aussi un enjeu non seulement pour l'atelier, mais pour l'association de manière générale. Si on arrive, ne serait-ce qu'à minima, à avoir et à proposer des outils qui peuvent être ouverts d'une manière plus générale, sans faire partie nécessairement de l'atelier, mais on a peut-être cette vocation à expérimenter, aussi bien au niveau conceptuel que peut-être très très concret, pour pouvoir donner le feu vert à des outils, faire des expérimentations beaucoup plus larges sur le site d'Ars Industrialis, pour qu'on arrive vraiment à transindividuer, donc ça fonctionne, quoi. Donc non seulement en interne, mais en extérieur également, et potentiellement avec des partenaires aussi. Donc ça, c'était le troisième point sur produire des recommandations et faire des préconisations. Et on a commencé à en parler sur la question de faire des expérimentations. On a commencé à en parler là. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, Ars Industrialis, à la base, on fabrique des concepts. Mais ces concepts, bien évidemment, ces concepts, on veut les mettre en œuvre. Hein. Je disais tout à l'heure, les concepts sont des armes, enfin, on veut influer sur la réalité. Donc le modèle qui se présente à nous, aujourd'hui, c'est le modèle de recherche-action. Je pense qu'il faut inscrire ce groupe. Il y a aussi un autre groupe qui devra poser cette question-là, je pense, c'est celui sur l'économie de la contribution. Mais on est à l'articulation de cette question-là, je pense, avec l'atelier sur les technologies relationnelles. Comment avancer avec une logique de recherche-action ? Un exemple d'organisation pour Ars Industrialis et pour ce groupe, pour cet atelier, c'est... qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est l'école de Francfort. L'école de Francfort, donc bienvenue à Henri qui nous a rejoint, qui était un des participants de PhiloWeb, sur lequel on fera une passe tout à l'heure, donc il pourra nous donner également son éclairage, parce que c'est un informaticien qui est en train de devenir philosophe.
Qui a fait des études de philosophie.
Et qui a fait en plus des études de philosophie déjà. Bon voilà, donc il revient à la racine des choses. Donc l'exemple, c'est l'école de Francfort, je disais. Et notamment avec son institut de recherche sociale, qui avait été fondé bien avant l'école de Francfort, enfin en 1923, et qui était soutenu par le mécène Félix Weil. Bon, nous, il ne manque plus que le mécène. Parce que son fils, je crois que c'était un milliardaire brésilien ou argentin, son fils faisait des études à l'école de Francfort. Il dit, papa, c'est formidable, il faut les financer. Et puis l'école de Francfort a été financée, robinet ouvert. Donc, c'est quand même eux qui ont inventé les industries culturelles, hein, qui ont forgé tous ces concepts de masse, etc. Et qui étaient vraiment systématiquement dans une logique de recherche-action. J'ai une recherche, mais je la mets en pratique, je fais des expérimentations. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est un modèle, à la fois d'un point de vue économique, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des mécènes, mais on peut avoir trouver des sources de financement, je pense que c'est intéressant, pour ne pas rester esselé, et également pour mettre en place nos concepts, et voir comment ils fonctionnent. Alors,
Je voulais juste ajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord sur la recherche d'action. Enfin, mon leitmotiv, y compris ce que je mets en place à l'Université de Rennes, hein, c'est d'abord s'auto-prescrire. Mmh. Auto-prescrire ce qu'on pense pouvoir être une expérimentation convenable pour autrui, c'est l'autoprescription et l'auto-observation, à la fois être les prescripteurs et les cobayes, quelque part, de l'expérimentation, ce qui est un petit peu difficile, parce qu'il faut saisir du dedans, et donc avoir à la fois du recul, tout en étant imprégné du faire. Mais ça marche très très bien. C'est l'exemple, donc peut-être à un moment donné on en parlera, du wiki, de la coproduction du wiki école de Noventura, qui marche vraiment d'enfer, avec des outils d'ailleurs dans lesquels, alors peut-être que nos apprenants sont particuliers, mais ils ont un usage quasi immédiat de la classe virtuelle qu'on a mise en place, qui est très ergonomique et dans lequel effectivement on peut ajuster la dimension orale et le chat à côté sans problème.
Ta remarque va faire plaisir à Alexandre. Je crois que c'est ta femme qui fait un travail sur cannabis et
schizophrénie.
Donc maintenant, elle n'a plus le choix. Il faut falloir qu'elle expérimente elle-même.
Ce qui est drôle, c'est que... Non, mais...
Parce que ça pose problème. Ça pose problème.
Dangereux. On parlait là des technologies relationnelles.
Par rapport aux technologies relationnelles, ce qui est drôle, c'est que j'ai interviewé Emmanuel Zaclade à l'occasion de mon préambule à PhiloWeb et que après la discussion qu'on est resté discuter pendant une heure et demie, il m'a parlé d'un logiciel pour sociologues servant justement à travailler sur les entretiens. C'était en partant des technologies relationnelles qu'on retrouvait justement le travail de mon épouse, parce que c'est un logiciel pour sociologues qui avait été développé dans l'optique justement de proposer quelque chose qui permet d'exploiter ces entretiens, où là, effectivement, on a de la recherche action, vraiment, voilà, face à face, visu.
Alors, juste pour l'anecdote, hein, Christian, ma femme, est médecin addictologue, donc je ne lui propose pas l'auto-prescription non plus.
Si j'ai fait la... Bon, parce qu'il m'en a parlé il n'y a pas longtemps, donc... Et puis parce que j'ai... mais j'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'ai quand même un sixième sens qui me dit attention, parce que je suis moi-même souvent dans des positions de porte-à-faux. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je dis. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir envie de dire ce que je dis. Si je dois m'être reproché en permanence que est-ce que je l'ai essayé, est-ce que je l'ai éprouvé d'abord sur moi pour ensuite, ça me... Enfin, je ne suis pas sûr de poser le problème de la bonne manière, mais ça peut amener beaucoup plus de contraintes que d'avantages. Mais j'entends bien la remarque, et je comprends bien l'intérêt de cette remarque.
Moi, je pense que si on veut produire des concepts sans être platonicien, il faut de toute façon avoir une démarche non pas déductive, mais inductive. Or, l'induction, c'est dans le faire. Et puis, on renvoie systématiquement.
Enfin, oui, mais c'est dans le faire, mais pas forcément sur soi.
Non, pas forcément, mais sur les technologies relationnelles, je ne sais pas.
Un terrain, c'est des objets d'études qui demandent un peu de se mouiller, de s'impliquer dedans pour arriver à les comprendre, ouais, ça c'est clair.
Ouais. Il faut voir la juste distance. Il faut réfléchir ensemble sur une juste distance.
Je ne suis pas toujours de mon avis, disait Valérie.
Oui.
Mais l'expérimentation, elle ne peut se faire qu'avec un membre de groupe. Enfin, je veux dire, il peut pas y avoir expérimentation d'un concept qui va être élaboré, donné comme ça, je dirais, sous forme de papier ou de document électronique, et de dire débrouillez-vous avec. Non, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera impliqué, peut-être comme observateur, ou accompagnateur, mais je ne vois pas comment ça peut... Il peut y avoir une expérimentation...
Faire des pilotes.
Qui serait extérieure ou...
Enfin, accompagnateur, pour moi, accompagnateur, tuteur, observateur, ce n'est pas de l'autoprescription. Voilà. C'est la raison pour laquelle, sans trop rentrer dans les détails, mais ne serait-ce que voir comment nous avons des usages, des pratiques autour de l'espace, entre guillemets, communautaire du site d'Ars Industrialis, ça me semble tout à fait intéressant. Ouais, est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que ce n'est pas un réseau social? Est-ce que c'est un archive, comme tu l'appelles? Est-ce que c'est du knowledge management relationnel? Enfin, il y a plein de choses à observer déjà, et qui nous impliquent directement, parce que je ne sais pas qui d'entre vous ne fait que consulter, mais il y a des gens qui consultent. Il y a des gens qui consultent et écrivent, il y a des gens qui consultent, écrivent et commentent. Il y a déjà du terrain, si tu veux.
Ça, c'est vrai, ça, c'est très juste. Et je pense qu'on a pas assez de réflexivité sur l'analyse du comportement ou pas, mais ça, c'est... Ça, Ça tient à la fois à nos forces, à notre temps disponible. Et
un atelier aussi pour ça.
Ça pose aussi des problèmes philosophiques sérieux sur la possibilité d'autoprescription et de la réflexivité. On vit un siècle où on est en train, à mon avis, d'intégrer dans notre cadre de pensée la relativité que les physiciens ont élaborée. Et sur ces possibilités, quand on est dans des couples recherche, action, et également préco, expérimentation, où il faut régulièrement se poser la question de la possibilité d'être à distance, et de la distance, effectivement, qui permet de dégager un savoir. C'est vraiment, je pense que c'est pour reprendre un peu l'idée de l'apparition du transistor comme un fait, l'apparition de l'expérience de Schrödinger pourrait être une bonne base de réflexion sur l'effet d'un groupe de réflexion, ce que nous sommes, quant à l'action.
Tu peux peut-être dire, parce que je ne suis pas sûr que Schrödinger, tout le monde...
c'est une expérience de pensée qui a été élaboré pour arriver à conceptualiser ce que les physiciens décrivent aujourd'hui comme la réalité, c'est-à-dire donc la superposition d'états, c'est-à-dire qu'on peut enfermer dans une boîte un chat, hein, et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour voir si, avec une capsule de cyanure, qui risque d'être déclenchée par l'entrée d'un photon par une fente ou une autre, pour les physiciens, la dualité particule-onde et fonction fait que aujourd'hui, on ne peut pas fonder la physique actuelle sans qu'il y ait une superposition de l'état de l'entrée du photon par l'une ou l'autre fente. Ah, donc le chat est mort et non mort à l'intérieur. C'est littéralement inconcevable, ou c'était inconcevable pour des générations comme la mienne, qui n'ont pas baigné dans la physique théorique et l'arsenal mathématique qu'il y a par derrière, mais c'est en train de devenir une vulgate. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a eu énormément de conséquences artistiques. Hein, toute une série de tableaux des surréalistes belges qui sont des représentations de l'expérience de pensée de Schrödinger, la pensée relative se traduit aussi bien dans nos idéologies, certains phénomènes artistiques, que dans la science. On change notre rapport au réel. Quand on décide qu'on va partir d'un fait, on peut choisir celui-ci. Toutes les approches, justement, alors si on en revient à nos technologies et l'idéologie de grands systèmes et de grands industriels comme Google, repose sur des approches statistiques avec des superpositions d'états, des superpositions de tendances, qui utilisent des technologies mathématiques d'analyse qui sont profondément relativistes.
Donc cette recherche-action là, elle est fondée sur l'approche de Kurt Lewin. Il s'agit donc de recherche, pour le dire quand même, hein, ces recherches-action, c'est des recherches sur lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réalité. Autrement dit, de transformer la réalité et en même temps de produire des connaissances sur cette transformation. J'ai transformé et c'est parce que j'ai produit une transformation que je vais pouvoir produire des connaissances sur cette transformation. Donc ça, c'est le côté expérimentation. Et moi je crois que les modalités de mise en œuvre aujourd'hui, parce qu'en recherche-action, ça pas raison, hein, mais je crois que les modalités de mise en œuvre de la recherche-action à l'heure des technologies relationnelles peut également faire l'objet d'une évolution significative. Pour moi, la référence, en l'occurrence, c'est les travaux de la jeune économiste Esther Duflo. Tous les gens avec qui j'ai discuté m'ont dit que c'était trop simple, c'était, vous voyez pas l'intérêt. Moi, je trouve que ça, c'est très bien, les travaux d'Esther Duflo. Je vous invite à les lire, ça fait partie des références. En plus, ça se lit en une après-midi, les trois bouquins qu'elle a fait. Voilà. C'est des tout petits livres, le cours qu'elle a donné au Collège de France, enfin, ça se lit très facilement. Et bon, c'est vrai que théoriquement, c'est pas...
Sur Internet, il y a des vidéos d'elle aussi, où elle est très claire, très...
Ouais, ouais, enfin, bon, c'est pas... C'est d'aspect, en une après-midi, on peut rentrer dedans. Et... Mais c'est très intéressant parce qu'elle combine des méthodes d'approche qu'on retrouve dans toute la vague du web 2.0, des technologies relationnelles, c'est-à-dire une approche toujours avec une logique de feedback. Je vais faire quelque chose, mais avant de faire quelque chose, je me pose la question de comment je vais mesurer l'impact de ce que je vais proposer ou de ce que je vais produire. Ça aussi, c'est la recherche-action, hein, puisque dégager des connaissances à partir de des transformations que je vais provoquer dans le réel. C'est-à-dire que je me pose en permanence la question de la rétroaction. Après, c'est des modes de travaux qui reposent sur ce qu'on appelle l'agilité. Plutôt que de faire de gros programmes, hein, je vais agir de manière itérative, hein, apprendre à chaque fois, corréler, modifier mon action, essayer de voir comment ça se passe. Et puis parce qu'elle a remis surtout au goût du jour ce qu'on appelle les... qu'elle appelle la pharmacologie, qui est la réintroduction des essais cliniques, hein, parce que la médecine et la pharmacie est entrée dans la science avec les essais cliniques. Avant, il n'y avait pas de... C'était un milieu sur lequel il n'y a pas de loi, comme on a dit, de loi physique, hein, le vivant, les biologies, l'impact des molécules. Mais c'est avec les essais cliniques que la pharmacie, d'une manière générale, est entrée dans l'ère industrielle. Hein. Ça marche pas, on met des placebos, on fait tester à des personnes, on voit ceux pour ça qui réagissent, ça réagit pas, et ça permet d'avancer, parce qu'avant on était incapable de trancher. Donc la mise en place de ces cliniques, c'est ce qui a révolutionné la pharmacologie. Alors la pharmacologie, attention, peut-être que je l'emploie là, c'est pas la pharmacologie de Stigler. Même si c'est le même mot. Et ça a beaucoup de similarités, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. La pharmacologie, c'est vraiment l'étude des médicaments, pour les industriels, les médicaments, etc. Mais ça s'appelle aussi la pharmacologie. Mais la connivence et la similarité, puis l'homonymie, est intéressante parce que je crois que c'est intéressant également quand on veut mener aujourd'hui des expérimentations à plus large échelle, où il ne s'agit pas juste de faire tester un médicament à 2-3 personnes, voire à soi-même si on est un fan de l'automédication, mais d'essayer de l'expérimenter sur des champs, et sur un nombre et sur une population qui est peut-être beaucoup plus importante. C'est ce que permettent aujourd'hui, et c'est dans cette tendance-là que s'inscrivent les technologies relationnelles. Donc je pense que la lecture et la confrontation de avoir une démarche d'expérimentation qui s'inspire de la recherche-action, également du mode de fonctionnement de l'école de Francfort, qui prenne en compte le contexte des technologies relationnelles actuelles et qui s'inspire également des résultats qu'a pu avoir Esther Duflo dans le domaine économique, moi je trouve que c'est une convergence qui est très très stimulante. Je ne veux pas semer le trouble dans votre esprit avec cette histoire de la pharmacologie, hein, mais c'est vraiment deux choses...
Je crois que déjà, c'est un sujet intéressant que nous discutions de la possibilité et des modalités d'un protocole d'expérimentation.
Oui. Oui, de toute façon, pour moi, atelier, c'est pas réflexion. Pour moi, atelier, c'est un gros projet, tu vois. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à partir des points qui ont été déclinés ici, on se mette vraiment en mode projet. C'est-à-dire, en gros, quels sont les lots, quels sont les livrables, sur quel degré.
Protocole d'expérimentation, est-ce que tu... est-ce qu'il y a une littérature sur les protocoles d'expérimentation ou quelque chose qui te vient à l'esprit, ou alors chacun va pouvoir... Parce qu'il faut qu'on reparte derrière avec des... on a parlé de protocole d'expérimentation. Bon, mais c'est quoi? Il y a une référence? Chacun part de son côté chez Google.
Il y a un texte de Bachimon, il pose la question de savoir s'il peut y avoir des expériences en ingénierie. Bon, est-ce qu'il peut y avoir des expériences en ingénierie? Alors lui, il dit non, c'est de l'interprétation, mais c'est des questions qu'on peut se poser d'ailleurs par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, le W3C, Berners-Lee, les ingénieurs qui
sont... Donc Bachimon, qui est professeur.
Qui est professeur à directeur scientifique à. De l'Université Technologie de Compiègne et effectivement qui travaille aussi à l'INA.
Institut national de l'audiovisuel.
Qui est un spécialiste du multimédia, des métadonnées associées au multimédia, du document aussi, des inscriptions et qui est philosophe et ingénieur des mines.
Il y a énormément de ces conférences, de petits podcasts sur le site de l'INA. Si vous cherchez Bruno Bachimon, c'est en général très clair.
BACHIMONT, je crois.
Ça va se retrouver sur Dailymotion maintenant, puisque leurs vidéos sont accessibles sur Dailymotion. Et c'était un des participants de PhiloWeb, mais qui n'est pas venu.
C'est la faute à la graine. Donc voilà, je vais terminer sur l'essayer de, comme ça, j'ai essayé de balayer un petit peu ce que j'avais évoqué de manière un petit peu rapide dans le mail. C'était quoi ses objectifs? J'ai essayé d'en dire un petit peu plus que les trois bullet points, parce que en ce moment PowerPoint revient de l'actualité, oui. Même au monde.
Il y en a d'ailleurs. Parce que c'est un outil de crétinisation.
Ouais.
J'ai fait un petit article sur.
Et c'est les deux, je crois.
Le livre qui vient de sortir.
Ouais, c'est les deux. Toujours l'histoire du pharmacon, quoi.
Ah oui, tout à fait. La foison, un poison médicament.
Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment toxique. Ouais. Même quand l'armée américaine arrive à dire bon, la guerre en Irak, c'est la faute à PowerPoint.
Mais moi, j'ai bien aimé ce que dit McChrystal, avec l'ironie qui le caractérise, qui a fait qu'il a été buté dehors. Il a dit, le jour, on lui a présenté un schéma sur PowerPoint. Il a dit, le jour où l'armée américaine comprendra ce schéma, on aura gagné la guerre en Afghanistan.
Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est foutu?
C'est un schéma extrêmement complexe.
Oui. Voilà, et puis qui n'avait plus
de lien. Ah, c'est le schéma spaghetti avec des flèches
partout. Voilà, d'accord. Qui n'avait plus de lien avec le réel que les gens en Afghanistan vivaient tous les jours.
Et ce qui est assez amusant, c'est que ça a été présenté comme une critique de PowerPoint, alors que c'est en même temps une apologie des pires aspects de PowerPoint, c'est le refus du complexe. C'est-à-dire que le schéma est complexe. La revendication était de dire on peut gagner si on simplifie et si on respecte les règles, trois bullet points. 2 minutes et la critique était clairement un refus d'un travail qui était peut-être difficilement lisible, mais qui pose aussi le problème de est-ce que une technique plus la technologie, le discours sur cette technique associé comme les PowerPoint de la simplicité compréhensible permet de poser des problèmes qui ont des niveaux de complexité supérieurs. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de problème complexe. Ce qui, pour l'armée américaine, est probablement une bonne solution.
Bien. Donc voilà, et le dernier point, c'est que sur le site de l'association, tout comme c'est déjà le cas, je crois, pour l'atelier sur les techniques de soi, il y a une page qui nous est réservée. Pour l'instant, je ne l'ai pas remplie, parce que je voulais qu'on en parle, qu'on se voit avant, pour qu'on puisse faire, je ne sais pas comment appeler ça, ou un mini-manifeste, ou en tout cas un texte qui soit un petit peu plus consistant que le mail d'invitation que vous avez reçu initialement. Donc je pense que ça fera un petit peu... ça sera sur la base de ce qui va se dire cet après-midi. Alors je ne sais pas comment vous procéder. Moi, je peux vous proposer, à l'issue de cette réunion... de vous proposer quelque chose, ou quelqu'un d'entre vous qui me propose quelque chose pour essayer de présenter le groupe, hein, à l'image de ce que vous pouvez voir sur le groupe technique de soi. Proposer le groupe, ses enjeux, etc., les thèses qu'on défend, bon... donc ça, il faudrait le faire peut-être dans la semaine qui vient, ou dans les 15 jours qui viennent, de manière à ce que... Moi, j'ai pas voulu le faire pour pas vous court-circuiter, vous dire, bienvenue à l'atelier, mais les choses sont déjà publiées, le manifeste, entre guillemets...
On peut le faire de façon collaborative, de mettre en place un espace, commencer à le préparer, et puis chacun pourrait être...
Donc, moi, je peux commencer à vous soumettre quelque chose, et puis essayer de le valider, ou de le corriger, ou de l'amender, si vous le voulez.
Les techniques relationnelles, c'est pas que Facebook, coucou la praline, hein, c'est aussi travailler ensemble.
Oui, d'accord, j'entends bien. Donc voilà, ça c'est l'aspect pratique sur lequel il faudra qu'on sorte un texte. Okay. Alors après, au-delà de ces objectifs,